Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la présence du Seigneur et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous connaissez le verset le plus connu de la Bible? Est-ce que quelqu'un peut me le citer? Il contient 28 mots. 28 mots. Et dans ces 28 mots, tout l'évangile est résumé. On va le lire dans l'évangile donc de Jean. 28 mots, je les ai comptés. Avec 28 mots, des hommes peuvent passer des ténèbres à la lumière. Jean chapitre 3, verset 16. Et le verset le plus connu de l'Ancien Testament, quelqu'un, c'est lequel? Moi je crois que c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je crois qu'un des versets les plus cités dans les églises évangéliques, en tous les cas, c'est ce verset qui est d'une parole, d'importance capitale, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », comme ce verset qui est affiché sur le fond de la salle, « Soyez réconciliés avec Dieu ». C'est la chose la plus importante, de se préparer à rencontrer Dieu. Et Jean 3,16 nous dit bien ce qu'il faut que nous entendions, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, c'est que les hommes aient la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que les gens ne périssent pas en enfer. La volonté de Dieu, c'est que les gens comprennent qu'il y a un temps. Oui, comme on l'a chanté, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a surtout un temps pour se préparer à rencontrer Dieu. Et le message que je voudrais partager avec vous cet après-midi est celui-ci. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Car la Bible nous dit qu'un jour, il va revenir chercher l'Église et que la dispensation de la grâce va s'achever. Et il a donné plein de signes qui nous montreraient que Jésus reviendrait nous chercher et que Jésus reviendrait terminer la dispensation de la grâce. Alors, il n'y a pas de date. Il y a des gens qui fixent des dates aujourd'hui. Souvent, il y a un pasteur, il n'y a pas longtemps, vous le savez. Vous n'avez pas vu sur Internet un pasteur qui a fixé une date de l'enlèvement de l'Église? C'était au mois de mai, ça devait être. Vous n'avez pas vu? Il a fixé une date. C'était affiché sur plein de panneaux aux États-Unis. Je crois que c'était c'était en juin, le 19 juin, je crois que c'était. Je ne me rappelle plus. Bon, enfin, ça, il a eu une erreur de... il y a une erreur. On le voit de temps en temps. Jésus a dit, on va le dire, d'accord? Qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure. Donc, au moins, c'est clair. Les apôtres avaient posé des questions, mais Jésus a répondu, et nous allons voir certains signes. Est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce que Jésus peut revenir? Voilà, c'est une question qu'on doit poser. Il n'a pas donné la date, mais il a donné des signes qui nous montreraient qu'il reviendrait. Matthieu chapitre 24, verset 32. Matthieu 24, 32. Instruisez-vous. Oui, Dieu, il veut qu'on soit instruit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Voilà, Jésus parle des signes qui indiquent qu'il va revenir. Est-ce que vous êtes intéressé par le retour du Seigneur? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dépasse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pousserait à la moquerie? Il y a des gens, quand vous leur parlez du Seigneur, ils font une pince sans rire, là. Ils s'amusent. On le voit dans les services religieux à un enterrement. Quand on prêche un enterrement, que Jésus un jour reviendra, que les morts en Christ ressusciteront, il y a des gens, ils nous regardent, ils se demandent si on n'a pas besoin de soins. Et pourtant, toute la Bible n'arrête pas de nous enseigner que Jésus va revenir. Et ces mêmes gens qui se moquent sont souvent les mêmes qui récitent le Notre Père, que ton règne vienne, pour vous dire combien les hommes sont aveuglés. En tous les cas, Jésus a parlé, donc, on vient de le lire, d'une génération qui verra toutes ces choses, tous ces signes qui nous prouvent et qui nous montreront que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et que, hélas, comme il l'a prophétisé ailleurs, que beaucoup ne seront pas prêts. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes prêts pour les vacances? Ah, les vacances. Vous êtes prêts pour les vacances? Est-ce que c'est bien, les vacances? Bon, c'est bien. Les gens, ils se préparent pour les vacances. Ils viennent à l'avance et tout, bon, c'est bien. Mais les gens, pour le plus grand voyage, pour les plus grandes vacances, ils ne se préparent pas. Alors, un des premiers signes que Jésus dénonce ou présente, c'est l'état mental du monde. Il est dit dans Luc, alors on va lire quelques-uns, c'est bien quand même de relire ces choses, parce que c'est important. La génération qui verra le retour de Jésus, est-ce qu'il faut qu'elle parle du retour de Jésus? Les chrétiens de l'Église primitive ne parlaient que de ça. Dans toutes les épîtres, on voit qu'ils ne pensaient qu'à ça. Et pourtant, ça fait 2000 ans. Et nous, qu'on va le voir, il faudrait qu'on en parle plus qu'eux encore, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, un des signes, l'état mental du monde. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Ah, sur la terre. C'est ça qui nous intéresse. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent dans l'âme de terreur. Est-ce que vous avez lu ces choses? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a de l'angoisse chez les nations? Vous avez vu combien les gens sont angoissés? La France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Les gens sont angoissés, oppressés, sous pression, anxieux. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sera une génération angoissée. Les hommes rendront l'homme de terreur, l'âme de terreur. C'est terrible d'avoir peur, ou non? C'est terrible. Et c'est un des signes de la fin des temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez vu tout ce qui se passe aux informations, on le voit. Les gens, ils ont peur. Vous avez vu cette jeune fille qui a été assassinée, qui a été brûlée dans un bosquet. Voilà. Les adolescentes du lycée disaient, on a peur, on a peur. Nos parents ont peur, tout le monde a peur. Voilà. C'est un des signes. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ verra de l'angoisse. Les hommes rendront l'âme de terreur, des choses qui vont se passer sur la terre. Ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de programme, de ci ou de là, ou qui gouverne un pays, c'est à cause du péché. Et à cause de cela, il y aura de l'angoisse sur la terre. Et Dieu, lui, vous propose la paix cet après-midi. Parce que Dieu est un Dieu de paix, il peut vous donner de vous endormir en paix dans votre demeure, ce soir, alors que l'angoisse fera en grandissant. Vous pouvez dire, Seigneur, qu'est la paix sur la terre? Il n'y aura pas la paix sur la terre. Il n'y aura pas la paix sur la terre. On dit, Seigneur, qu'est la paix sur la terre? Qu'est la paix sur la terre? Il n'y aura pas la paix. Sur la terre, il y aura des angoisses. C'est tout. De plus en plus d'angoisses, à part le peuple de Dieu, lui, bien sûr, qui doit vivre dans la paix du Seigneur. Quand vous verrez ces choses, ne vous inquiétez pas, votre délivrance approche. Voilà. L'Église, elle a la paix. Parce que le châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ nous donne la paix. Les gens se haïront les uns les autres. C'est pas écrit? Les gens se haïront. Voilà. Sans raison. Les gens, ils ont de la haine. Ils se battront. Et que de foyers seront détruits même à cause de cette haine. Voilà. La Bible enseigne que le péché, c'est la honte des peuples. Voilà ce qui se passera. Deuxième signe, l'état moral du monde. Quelle sera la moralité quand Jésus va revenir? Dans quel état sera notre monde? Vous ne trouvez pas que c'est un peu déplorable ce qui se passe, hein? Jésus dit que ça sera exactement comme du temps de Noé. J'ai lu encore dernièrement, hier, qu'il y aurait un grand réveil avant l'enlèvement de l'Église. Moi, je vois dans la Bible qu'avant l'enlèvement de l'Église, il y aura beaucoup, beaucoup de déchéances. Vous le voyez comme moi? Moi, je le vois comme ça. Dans les jours qui précédèrent le déluge, La méchanceté était grande sur la terre et la pensée des hommes se portait uniquement vers le mal. Il en sera de même. On l'a lu. Ça sera de pareil. On l'a lu. Il en sera de même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Ce sont des choses qui ont été écrites, pas pour nous faire peur, au contraire, pour nous montrer comment les choses vont dégénérer. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent « Ah, quand on aura une nouvelle politique, ça ira mieux. » Mais non, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de péché. Le problème, c'est qu'on ne règle jamais le péché. Ça fait que le problème, il continue toujours à s'aggraver. Du temps du déluge, les gens, ils se moquaient. Quand Noé disait « Il va y avoir un déluge », qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils se moquaient. Ils riaient. Ils riaient. Quand vous dites que Jésus va revenir, les gens, ils rient. Ils se moquent. Ils se moquent. Mais je crois qu'il faut continuer à prêcher que Jésus-Christ va revenir. Alors, c'est vrai, du temps de Noé, les gens me mangent, les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient. Alors, est-ce que c'est normal de manger aux fêtes? Est-ce que ça vous arrive de prendre un repas? Est-ce que ça vous arrive de boire? Est-ce que c'est normal que des gens se marient? Mais ce que ça veut dire, là, c'est que les gens ne pensaient qu'à ça. Il n'y a que ça qui les préoccupait. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Mais il y a des gens qui ne pensent qu'à ça, qu'à manger, qu'à boire, qu'à faire la fête, etc. Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que votre âme pense à Dieu, hein? Et il est dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Il en sera de la même manière aussi, du temps de Lot. Lot, tiens, donc qu'est-ce qui se... On l'a lu? On n'a pas lu, non, Lot. Matthieu 24, allez, on va le lire. Matthieu 24, Jésus a dit, ça sera comme du temps de Lot, de Noé, mais il dit, ça sera pareil du temps de Lot. Alors, que je ne me trompe pas, alors c'est dans Luc, ça, non, c'est dans Luc. Luc 17, pardon. Vous me pardonnez? Vous avez intérêt. Regardez, Luc 17. On fait souvent allusion à Noé, mais c'est rare qu'on fait allusion à Lot. Luc 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Du temps de Lot, qu'est-ce qui se... Vous avez lu l'histoire de Sodome et Gomorre? C'était quoi le péché de Sodome et Gomorre? L'homosexualité. Aujourd'hui, on intègre ça. Même dans les églises, ça va rentrer, on va accepter ça, ça va être toléré. Moi, je peux vous dire qu'on y va droit dedans, on y va en plein dedans. C'est un des signes qui indique le retour de Jésus-Christ. L'homosexualité, c'est un péché. Dieu aime les homosexuels, Dieu veut qu'ils se repentent, Dieu veut qu'ils se convertissent. Mais c'est écrit, ce qui arrivera, ça sera comme du temps de Lot. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'homosexualité, et ces choses-là doivent être dénoncées. Il faut le dire. C'est dans le prophète Amos, où la génération du prophète Amos a été sévèrement jugée, parce qu'il est dit, le père et le fils vont vers la même fille. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est accepté. On ne dit rien, mais il ne faut pas voir le mal partout. Les festivals de libre expression, la sexualité en public, la gay pride, tout ça, c'est bien. Et on rit et on applaudit. Et les hommes politiques applaudissent. Et c'est bien, on est dans un pays libre. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent que le jugement de Dieu va venir. Il en sera de même. Alors on dit, oui, il faut prier pour qu'il y ait un gouvernement chrétien. Écoutez, moi je veux bien, mais franchement, on rêve. Écoutez, ou alors Jésus s'est trompé. Est-ce que Jésus pouvait se tromper? Non, ça sera comme ça. La génération qui verra le retour de Jésus sera la même génération que de ce qui se passait du temps de Lot. Il y aura de l'homosexualité à outrance. Ça ne s'arrêtera pas parce que les hommes ne veulent pas de Jésus-Christ. C'est ainsi que ça sera. Il en sera de même, on vient de lire, du temps de Lot. Oui. Et ça, c'est un des signes de la fin des temps. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est un signe de liberté, d'évolution. Moi, je ne pense pas que c'est un signe d'évolution. Je pense que c'est un signe de régression et c'est un signe qui attire la rébellion. Troisième signe, l'apostasie. Alors ça, c'est un autre signe aussi. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes viendront. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. D'ailleurs, ce que je viens de dire là, en ce qui concerne l'homosexualité, dans certaines églises, je peux vous dire qu'on me ferait, on me renverrait. Aujourd'hui, ça vous étonne peut-être, mais moi je peux vous le dire. Et Paul dit à Timothée, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des fables. Vous savez ce que c'est les fables? Pour les enfants, les petites histoires là. Les gens, ils veulent des fables, des petits trucs intéressants. Voilà, les arts, introduire les arts dans l'église. Les arts, A-R-T-S, les arts, le théâtre, le divertissement. Voilà, les gens, ils veulent du divertissement. Vous avez vu dans l'Exode, là? Quand ils se levèrent pour se divertir. Ça n'a pas beaucoup plu au Seigneur, cette affaire-là. Nous sommes dans ces temps où les gens rentrent dans l'Église sans passer par la repentance. C'est ce que Paul est en train de dire. Il viendra un temps où les gens, ils iront à l'Église, mais ils ne voudront pas passer par la repentance. Ils ne voudront pas passer par la conversion. Ils ne voudront pas passer par la croix. Ils seront tout le temps en train de dire, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? C'est pas nouveau. Hein? Maman le dit, l'autre jour je discutais avec une jeune fille, mais est-ce que vraiment il faut prendre le baptême pour être sauvé? Mais oui, parce que le baptême c'est un engagement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui les gens ne veulent plus s'engager. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui montre qu'il ne veut pas obéir à Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Un jeune homme qui ne veut pas se marier avec une jeune fille, c'est quelqu'un qui montre qu'il ne veut pas s'engager. Il peut lui dire « je t'aime à la folie, je t'aime ». Quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas véritablement prendre des responsabilités. On le voit de plus en plus. Et ça, c'est aujourd'hui, ça rentre dans les églises, on tolère de plus en plus certaines choses. Moi, on m'a demandé, mais on pourrait marier des gens qui sont paxés. Mais ne riez pas. Mais ça va se faire. Dans nos églises, ça se fera. On mariera les gens qui sont paxés. Mais les gens qui sont paxés, est-ce qu'ils sont mariés devant Dieu? Et non, ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à la Samaritaine? Quand tu appelles ton mari. Ah, c'est pas mon mari. Il fallait qu'elle règle ce problème. Il fallait qu'elle le règle. Il faut régler les problèmes. C'est quelque chose de sérieux. C'est des doctrines de démons. Ils enseigneront ces propos prophètes qu'il n'y a pas besoin de se marier. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit comme ça. Et je crois, mes frères et sœurs, que ça, ce sont des signes de la fin des temps. Jude dit ceci. Il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. On va le lire? C'est bien qu'on le lise. Parmi nous, ça veut dire que dans l'église de Jésus-Christ, il se glissera des hommes qui enseigneront. Ça, on ne lit pas souvent ces versets. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous les lisez souvent ces versets? Non? Regardez, Jude, chapitre 4. Verset 4, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 4. Il n'y a qu'un chapitre, mais vous le saviez. Jude, chapitre 1er, verset 4. Il s'est glissé, ou dernier chapitre plutôt. Il s'est glissé parmi vous, regardez bien, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des faux prophètes. Ils sont perdus. Ils s'infiltrent petit à petit dans les églises et ils communiquent des fausses doctrines. C'est le nouveau christianisme. On appelle ça au niveau national le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on veut mettre toutes les religions ensemble. C'est un christianisme sans le Christ, c'est un christianisme sans la croix. On ne prêche pas la croix, on veut bien d'un Christ, mais d'un Christ lointain, d'un Christ qui est gentil, qui tolère tout, etc. On préfère des choses plus intéressantes. Il faut que l'apostasie soit arrivé. L'apostasie, c'est un des signes. Ça va se multiplier. Il faut. C'est un impératif. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et il y a... Écoutez, moi, j'ai été une fois dans une église, j'ai prêché sur la repentance. À la fin, le pasteur responsable, il m'a demandé, bon, il faudrait peut-être que tu parles un peu moins de ça. C'est pas vieux, ça. Alors je dis, écoute, moi, tu m'as invité, je prêcherai ce que j'ai prêché. Si tu n'es pas d'accord, je m'en vais, je prends l'avion, je rentre. Mais moi, je crois qu'il faut continuer à prêcher la croix. Il faut continuer à prêcher que sans la conversion et sans la repentance, les hommes périront. Il faut leur dire que Jésus, moi, je trouve qu'il a payé, notre maître, il a payé, notre sauveur, il a payé. Et il ne faut pas introduire ces choses dans l'Église. Ce sont des signes de la fin des temps. Les gens s'éloigneront de Dieu avec ces choses. On prêchera le Christ, mais sans la crucifixion. On prêchera l'amour de Jésus, mais sans la repentance. On prêchera l'amour de Dieu, mais sans la conversion. Et ça, ça plaira aux gens. Ça plaira de plus en plus aux gens. Que c'est triste, hein. Vous savez qu'on ne peut être sauvé que par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas sauvé, croyez que le sang de Jésus-Christ peut vous purifier. Vous avez vu, ils changeront la grâce de Dieu en dissolution. C'est grave, ça. Et Dieu est catégorique, il dit, c'est la condamnation est écrite depuis longtemps. Et je crois que des gens cherchent Dieu. C'est ça le problème, en plus. Quand Amos dit, mais j'enverrai la famine, non pas la peine et de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et les gens, ils vont dans les églises, ils veulent entendre la parole de Dieu. Vous savez, moi, j'ai vécu inespéré il y a quelques années. On avait été, je me rappelle, avec mon épouse, à un rassemblement, et il y avait un pasteur, il n'a fait qu'une chose. Et on avait invité, je me rappelle, un ami de l'école, c'était un arabe, il est rentré, et en plein milieu de la prédication, il est sorti, parce que tout le monde rigolait, on faisait que rire dans l'église. Et on l'a recroisé quelques jours après, il a dit, c'est ça l'évangile, moi j'en veux pas. Et il avait raison. On est dans ces temps, Dieu enverra la faim, et il n'y aura personne pour donner à manger. Il n'y aura personne pour donner à boire. Ça, c'est l'apostasie. Il y aura beaucoup de discours dans les églises, beaucoup de théologie, beaucoup d'enseignements, mais il n'y aura pas la prédication de la croix. Il faut que l'apostasie arrive. En tous les cas, moi, je ne veux pas en faire partie. Quatrième signe, l'iniquité qui va grandir. À cause de l'iniquité, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai que Paul dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Et tout ça, c'est l'iniquité. Vous voyez ? Parce que qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété ? Il dit, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils en renieront ce qui fait la force. Qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété ? Et moi, je vais le dire, c'est la sainteté. Pour un païen, c'est la repentance. Un païen, il se repent, il découvre une véritable piété. Quand il est chrétien, c'est la sainteté. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. Dieu dit ça, je le fais. Dieu dit qu'il ne faut pas le faire, je ne le fais pas. Et tout ça de bon cœur, bien sûr. Voilà, ils auront l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, il faut aller à l'église, il faut lire un peu, il faut prier un peu, il faut chanter quelques cantiques un peu par cœur, voilà. Ça, c'est l'apparence. Oui, je vais à l'église, j'ai l'apparence de la piété. Est-ce que parce que je vais à l'église, j'ai une véritable piété ? Est-ce que parce que je chante des cantiques, j'ai une véritable piété ? Et on pourrait dire, oh, ce gars-là, oh, il connaît tous les cantiques par cœur. Il doit être pieux. Est-ce que c'est un signe de piété ? Mais non, ça ne veut rien dire. La piété, ce qui fait la force, c'est la sainteté. Comme ce garçon qui connaissait des cantiques par cœur, et puis après qui me disait qu'il chattait avec des femmes sur Internet. Et je dis, mais ça, ce n'est pas la piété. Ça, c'est le péché. C'est le péché. C'est ça l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, de bruit de guerre. Tiens donc, vous ne trouvez pas que depuis le début de l'année, des soulèvements, il y en a quelques-uns ? Franchement, qui aurait pu penser qu'il y aurait autant de soulèvements en quelques mois sur la terre ? Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. C'est ce qu'on est en train... Et ce n'est pas fini, je peux vous le dire. Parce que les hommes sont de plus en plus rebelles. On en a parlé ce matin, c'était le sujet. Autre signe, la venue des moqueurs. La venue des moqueurs. Vous avez vu à la télévision tout ce qui est fait où on se moque. Vous avez vu ? Tous ces humoristes, vous savez, ces one-man shows. Est-ce que ça vous fait rire, vous, les one-man shows ? Sérieusement, est-ce que ça vous fait rire ? Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce qu'ils enseignent à nos enfants ce que c'est la moquerie. Et ils ne font que ce... Et de tout, et de la religion, bien entendu. On n'a jamais autant ri de la parole de Dieu. On ne s'est jamais autant moqué des choses sacrées. Parce que le problème, rire, c'est bien de rire. Mais se moquer des choses sacrées, vous croyez que c'est marrant? Quand on se moque du mariage, est-ce qu'on ne se moque pas de ce que Dieu a institué? Quand des chrétiens même en arrivent à se moquer. Et quand Dieu parle des moqueurs, il parle des moqueurs dans l'Église. Il dit, mais oui, ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il va revenir. Il a dit, je viens bientôt. Ça fait 2000 ans. C'est ça la moquerie. Mais heureusement qu'il n'est pas revenu. Et puis pour Dieu, il le dit l'apôtre Pierre, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Alors, est-ce qu'on est en mesure de contester avec ça? Si Dieu a dit que pour lui, 1000 ans sont comme un jour, c'est sûr, il a dit ça il y a 2 jours. Il y a 2 jours qu'il a dit, je viens bientôt. Oui ou non? Heureusement que le Seigneur tarde. Heureusement, sa patience n'est-elle pas notre salut? Que le Seigneur nous aide à comprendre. Les moqueurs, il y en avait du temps de Noé, il y en aura encore plus à la fin. Noé, on s'est moqué de lui, je peux vous dire qu'il devait moins rire quelques jours après, croyez-moi. Voilà. Mais il y en a qui devaient dire, mais Noé, tu plaisantes, Noé. Que Dieu va détruire le monde? Mais tu rigoles. Un déluge va venir, ils ont dû parler avec Noé. Est-ce qu'il y en a qui devaient aller le voir, Noé? Est-ce que les voisins devaient aller voir ce prédicateur de la justice? Il n'y en a pas qui devaient aller voir, tu devrais aller voir. Tu sais, il y a un gars là, il est en train de construire un bateau de 50 mètres de long. Va le voir. Va discuter avec lui, va te dire. Vous croyez qu'il a dû avoir des entretiens? Vous croyez que les journalistes, ils devaient s'intéresser à son sujet? Aujourd'hui, un truc comme ça, ça ferait la une des journaux. Mais c'est ce qui a dû se passer. Et les gens disent, mais Noé, mais Dieu est amour. Noé, Dieu est amour. Il ne permettra pas ça. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Mais Dieu est amour. Vous parlez du jugement dernier, vous parlez du jugement des nations, vous parlez de la colère de Dieu, mais vous vous plaisantez. Nous, le Dieu qu'on connaît, c'est un Dieu d'amour. Ça tombe bien, le mien aussi. Mais dans la Bible, l'amour, ça va toujours avec la justice. L'amour, ça va toujours avec la sainteté. Et voilà, Noé, on a dû souvent lui dire, Noé, tu as rêvé. Tu as dû rêver, Noé. Tu as pris un coup de soleil. Il y en a qui ont donné... Un autre signe que nous ne vivons pas par la grâce de Dieu, mais que beaucoup de nations vivent, la persécution qui grandit. Est-ce que vous savez combien de pays sont dans la persécution? Monsieur Santana nous l'a dit quand il est passé. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Combien de pays sont menacés par la persécution? 80 pays sur Terre. Et donc 40, surtout, une persécution violente. Vous rendez compte, 80 pays persécutés, et il y en a 40 où il y a une persécution vraiment sévère. Voilà, on vous livrera au tourment, vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. D'un autre côté, la famine, c'est pas un des signes, la famine, oui. Et d'un autre côté, l'abondance. C'est pas bizarre, ça? Dans les derniers jours, il y aura une grande abondance. On ne le voit pas, ça? Aux États-Unis, les gens, ils meurent parce qu'ils mangent trop. Mais vous le voyez, ça, les informations, vous le voyez. Il y a des millions de gens qui ne sont, sont pas en surpoids, ils sont d'une obésité incroyable. D'un côté, les gens, ils meurent de faim, et de l'autre, ils meurent parce qu'ils mangent trop. Et c'est écrit, il y aura des famines, et il est dit qu'à la fin des temps, il faudra faire attention de ne pas se laisser appesantir par le manger et par le boire. D'un côté, des millions qui s'enrichissent, d'un côté... des millions qui s'appauvrissent. Vous voyez, quand on ne veut pas de Dieu dans une société, comment ça se passe, hein? C'est quelque chose de terrible, hein? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme dépend de la façon dont il va s'occuper à se préparer de Dieu. Le 8e signe, les préparatifs pour la bataille d'Armageddon. Vous allez me dire, oh, monsieur Gau, c'est loin ça. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais si vous entendez des fois certains discours de chefs d'État, tous parlent d'un gouvernement mondial. Vous suivez les discours des hommes politiques? C'est très intéressant, non? Ça vous intéresse? Ces discours qui durent une heure, vous savez, là. Est-ce que vous aimez les discours des hommes politiques? Est-ce que vous les aimez? Pas trop, non? Ça vous endort? Moi aussi. Mais dans chaque discours, un jour, prenez le temps. Prenez le temps d'en écouter un. Et que ce soit ici, outre-Atlantique ou ailleurs, vous entendrez la nécessité d'avoir un gouvernement mondial. Et ça, c'est l'Empire romain qui est en train de se reconstituer. Vous savez, le quatrième empire dont parle Daniel, la statue, vous savez, la statue avec les pieds d'argile et de fer, c'est notre Europe, ça, qui est en train de se reconstituer, qui est une foi fragile, qui est une foi puissante, puissante pour les avions, qui est fragile avec concombre et tout ce que vous voudrez. Mais tout ça, ça se met en place. C'est exactement ce qui se passe au niveau économique. Et on ne se rend pas compte. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Les nations sont en train de préparer tout cela. Nous devrions ouvrir les yeux. Nous, on s'inquiète des fois pour des petites choses, alors qu'en coulisses, toutes ces choses sont en train de se mettre en place. Mais ça ferait l'objet de plusieurs prédications. Un autre signe, la connaissance et les voyages. Regardez avec moi dans Daniel au chapitre 12. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est écrit. Il y en a des signes sur la fin des temps. Daniel, chapitre 12. Vous aimez le livre de Daniel ? Vous vous rendez compte, cet homme, comment Dieu l'a béni ? Il lui a parlé de ce qui concerne notre génération. Quand on voit que c'est il y a 2600 ou 2800 ans, c'est impressionnant. Regardez un des signes. Daniel, chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que la connaissance augmente ? Ouais. C'est où qu'il est parlé des voyages ? Où c'est que je l'ai lu ? Est-ce que vous vous rendez compte ? La connaissance, vous ne trouvez pas ? Hier, j'écoutais à France Info, il parle de faire des voyages, oh, comment on appelle ça ? Des voyages spatiaux. Enfin, 300 000 dollars le voyage pour faire une heure ou deux dans l'espace, ou un peu plus. Vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait rien du tout. Et on est passé de l'attelage à bœufs, aux satellites et tout ce que vous voudrez. Est-ce que la connaissance a augmenté ? Vous avez vu avec un portable ce qu'on peut faire ? On peut envoyer des photos. Est-ce que vous réfléchissez ? On écrit avec un portable. Je vous envoie un message, ça s'affiche sur votre... Il faut quand même y penser. Une photo, il faut que ça passe par les ondes. Est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, la première fois que j'ai reçu un texto, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Sans fil, tu reçois par satellite un écrit. C'est pas formidable, ça, quand même, hein ? Essayez de comprendre. Faites-le. Essayez de le faire. C'est quelque chose d'inouï. Et c'est un des signes, la connaissance augmentera. On apprend de plus en plus de choses. Ça, c'est un des signes. Un autre signe, les conférences de paix. Vous voyez, d'un côté, il n'y aura que des guerres, mais en même temps, vous avez remarqué, on ne fait que parler de paix. Et la paix. Et pourtant, c'est un des signes les plus forts. Quand les hommes diront paix et sûreté, et on va y arriver. Vous avez entendu, vous écoutez les informations. Vous avez vu qu'on est en train de mettre en place au Moyen-Orient un gouvernement avec la Palestine, avec Israël, avec la Jordanie. Ils vont y arriver. Et ça va être la paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, on va y arriver. Là, on en prend le chemin. Hein. Une ruine soudaine les surprendra. Et quand tout le monde va être content, on va dire, enfin, on a trouvé une solution pour Israël. Enfin, je peux vous dire qu'il faudra mieux s'accrocher. Croyez-moi, au wagon, je vous le dis, parce qu'une ruine soudaine les surprendra. Quand les hommes diront paix et sûreté, enfin on y est arrivé. Parce que pour que les hommes disent paix et sûreté, il faut trouver un consensus entre la Palestine et Israël. C'est la seule chose à faire. Et on va y arriver, croyez-moi. Alors bien sûr, on pourrait parler du dictateur mondial, un gouvernement mondial dirigé par un dictateur. Vous savez qu'il est parlé d'un dictateur mondial. Vous avez lu l'Apocalypse ? Un sauveur, entre guillemets, qui va venir et régler tous les problèmes de la société, hein, qui imposera sa volonté au monde. Là, vous allez voir. Mais vous savez, on en prend le chemin. Vous allez voir les prochaines élections, comment tout va s'accélérer encore plus. Ça sera l'incarnation de Satan. Vous savez, Hitler, Néron, ça sera des gamins à côté. Des gamins à côté. De ce qu'il va faire. Il nous est dit qu'il va même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous l'avez lu, ça ? Est-ce que je l'ai dit ? Est-ce que c'est vrai ? Voilà ce qu'il arrivera à faire. On le prendra pour Dieu lui-même. C'est vrai que de son temps, beaucoup de choses vont s'améliorer. Mais tout ça, c'est après la septième trompette dans l'Église, dans l'Apocalypse. Tout ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc c'est un des signes, oui et non. C'est un signe qui se produira surtout après l'enlèvement de l'Église. Il nous est dit que les hommes ne pourront acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Les Américains ont dépensé des milliards, je l'ai lu sur un bouquin, des milliards pour savoir où c'est que la puce électronique devrait être implantée pour qu'elle soit le mieux rechargeable. Parce que vous savez, sur la main droite et sur le front, c'est des endroits du corps où le soleil recharge le plus la cellule. Ils ont dépensé des milliards, s'ils avaient lu l'Apocalypse, ils l'auraient vite compris. Et ils l'ont découvert. Mais vous voyez, ça fait sourire, mais en même temps, c'est impressionnant. On est là-dedans. Tous les hommes seront marqués. Et ceux qui refuseront la marque, qu'est-ce qu'ils seront ? Ils seront tués. Mais la Bible dit que tous ceux qui auront la marque seront perdus. Ça sera un temps de dictature terrible. Il aura un succès extraordinaire. Alors mes frères, mes sœurs, toutes ces choses, on pourrait continuer. Il y a une bonne chose par contre, et je voudrais terminer avec cette bonne chose. Jésus a dit, mais l'évangile sera prêché à toutes les nations. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut continuer à prêcher. C'est pour ça que toutes les églises devraient être ouvertes. C'est pas vrai ? Est-ce que toutes les églises en France ne devraient pas être ouvertes le dimanche après-midi ? Et tous les chrétiens devraient se réjouir et venir et ensemble proclamer l'évangile ? Est-ce que c'est pas un temps où il faut faire en sorte que l'évangile soit prêché à toutes les nations ? Et il dit, alors viendra la fin. Et puis il recommence. Vous avez vu ? Là on verra la désolation dans le prophète Daniel. Il dit, mais Jésus, vous savez, il ne faut pas oublier, c'est Dieu. Et tout ce qui a été dit est intelligent. Il parle, alors l'évangile sera prêché à toutes les nations, viendra la fin. Et puis recommence. Quand dans un film vous voyez fin, le film ne recommence jamais. Et là Jésus dit, on verra la fin. Et il recommence. Parce qu'il sépare l'enlèvement de l'Église de la grande tribulation qui va venir sur la terre. Et croyez-moi qu'après l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas marrant du tout. Ces choses auto-écrites, non pas pour nous faire peur, mais pour qu'on se prépare. Quand vous verrez ces choses, préparez-vous. Tenez-vous prêt, veillez, votre délivrance approche. Jésus, il n'a pas fait que mourir, ce qui était à 99% le plus important, mais en plus, il nous a rajouté toutes choses. Il a dit, voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. On en a partagé un petit peu pendant une demi-heure, on a partagé ces signes, on aurait pu en ajouter bien d'autres, mais vous ne croyez pas que ce qu'on est en train de vivre quand même. Il y aura de grands tremblements de terre, ce qui s'est passé à Fukushima, vous ne trouvez pas que c'est quand même un grand? Mes frères et sœurs, veillez, priez. Vous n'êtes pas baptisés, vous n'êtes pas convertis, repentez-vous, convertissez-vous. Ne dites pas prier pour que je me convertisse, ça ne tient pas debout. Convertissez-vous maintenant. On ne peut pas vous dire demain, est-ce que vous savez si demain vous serez vivant ? Est-ce que vous savez ? Personne ne sait si demain. Est-ce que le lendemain appartient à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, ah moi demain, le docteur m'a dit que je vivrai longtemps. Moi, demain m'appartient. Il m'a dit que j'en avais pour de longues années. Est-ce que parce qu'on est en bonne santé, on va vivre longtemps ? Est-ce que parce qu'on est malade, on va mourir demain ? Il y a des gens qui sont malades depuis 30 ans, ils enterrent tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous n'en connaissez pas des gens qui sont malades depuis 30 ans, 20 ans ? Moi, je connais une personne de ma famille, chaque fois que je la vois, on me dit, oh, je vais mourir. Ça fait 30 ans qu'elle le dit. Notre vie ne nous appartient pas. Ces choses ont été écrites avec beaucoup de sérieux. On s'en moque aujourd'hui. On devrait les prendre au sérieux. Hier, je termine avec cette petite anecdote. Hier, on a une petite piscine, vous allez rire, gonflable à la maison. Vous savez, les petites hors-sol, là, vous savez, pour les enfants. Et je ne sais pas, j'étais en train de la nettoyer. Je pensais à la prédication de ce matin, là, sur les autorités et tout ça. Et puis, je transpirais un peu et j'ai pris de l'eau et je me suis rafraîchi le visage. Et je dis, quelle grâce de pouvoir se rafraîchir. Je pensais aux mauvais riches. Quand il a dit qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Et j'étais là, moi, dans mon t-shirt, en train de me rafraîchir. Et je pensais aux gens qui sont en enfer, qui sont dans une souffrance indescriptible. Il n'y a pas d'eau en enfer, je ne sais pas si vous le savez. Enfin, je n'y ai pas été, mais je sais que c'est vrai. Parce que c'est Jésus qui le dit. Et tout ce que Jésus a dit est sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et cet homme qui avait vécu dans la richesse, dans l'abondance, qui ne s'était pas préoccupé de Dieu, sinon de donner quelques miettes aux pauvres, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs. Mais voyez, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un philosophe français, c'est Jésus-Christ qui parle, qui indique que dans l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi vous croyez que Jésus a dit, Dieu a dit, soyez réconciliés avec Dieu, parce que c'est grave de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est terrible de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier les frères, veiller pour que l'église de Toulouse, les églises de Toulouse retrouvent l'évangélisation. Ce n'est pas important ça. Toutes les églises en France devraient être ouvertes et on devrait prêcher que Jésus-Christ va revenir et qu'il faut se préparer à le rencontrer. On ferme les yeux quelques instants. Et moi aussi je le fais, comme Paul l'a fait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Peut-être que vous ne l'êtes pas, peut-être que votre piété est une piété de façade, peut-être que vous venez dans l'église et en même temps vous regardez des programmes pornographiques, j'en sais rien. Repentez-vous, réconciliez-vous avec Dieu, ne vivez pas de l'apparence de la piété. Jésus va revenir. Oui, l'enfer c'est quelque chose de terrible, il n'y a pas de purgatoire dans le ciel. Où c'est le ciel? Où c'est le paradis? Où c'est l'enfer? Vous ne pouvez pas prétendre à vous en sortir après. C'est maintenant, sur la terre, qu'il faut vous réconcilier avec Dieu, qu'il faut vous repentir. Alors y a-t-il quelqu'un? On pourrait chanter un chœur, un cantique. Jérémie va le préparer. Pendant ce cantique, y a-t-il quelqu'un qui veut venir donner sa vie au Seigneur? Quelqu'un qui veut redonner sa vie au Seigneur? Quelqu'un qui dit, ah mais moi je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, j'ai qu'une piété de façade, je lis, je prie, mais je vis dans le péché, je continue à mentir, je continue à voler, je continue à haïr. Repentez-vous, le Maître va revenir. Oui, cette génération ne passera pas sans que vous ne voyez le Fils de l'homme revenir du haut des cieux reprendre son Église. Alors soyons sérieux, l'éternité c'est sérieux, il n'y a que vous qui pouvez vous convertir pour vous. Alors si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, si quelqu'un veut redonner sa vie, si quelqu'un est malade également, avancez-vous, il y a une dame parmi nous qui a demandé l'onction d'huile, on va le faire également. Oui, Dieu est là pour bénir, on le chante, Dieu est là pour bénir, secourir, consoler, et que nous puissions vivre la bénédiction du Seigneur dans cette église, pour la gloire et l'honneur de son nom. Amen. N'hésitez pas à vous avancer pendant ce cantique.